Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage organologique en Europe de l'Est grâce à l'aventure que vit Philippe Bécheran, un vendopérien qui est tombé amoureux d'un instrument de musique qu'il est un des rares à pratiquer en France. C'est cet instrument que je vous propose de découvrir ce soir, c'est le tarogato. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Dominique.
Alors avant de commencer, on va peut-être écouter le tarogato. Alors, si vous n'avez pas écouté les premières minutes de cette émission, vous vous demandez bien de quel instrument il s'agit. Eh bien, il s'agit d'un tarogato que jouait Philippe Bécheran, mon invité de ce soir. Alors, Philippe, comment vous avez rencontré le tarogato ?
Le tarogato, je l'ai rencontré exactement en 2005. J'étais alors membre d'un quatuor de clarinette qui s'appelait le Quatuor Variance. On avait constitué avec certains collègues des Vosges et peut-être aussi de Meurthe-et-Moselle. Et nous avions une petite tournée de concert en Italie. Et un soir, Joseph Balogh, c'était un musicien de l'orchestre de la radio de Budapest, est venu. Le concert était à Reggiolo en Italie, près de Milan. Et il est venu, il a joué, parallèlement du stage qu'il dirigeait, il a joué quelques morceaux à la clarinette. Et puis, il a joué deux morceaux au tarogato. Et là, j'ai vraiment...
Ça y est, les poils se sont dressés.
Ah oui, absolument. Oui. Et alors, j'ai parlé avec lui un petit quart d'heure après le concert. Et puis, il avait son avion, il est reparti et je me suis trouvé
Alors après, comment
seul.
Vous avez fait ?
Déjà, j'étais sûr que j'allais...
C'était cet instrument-là.
Ah oui, c'était... Et comment faire ? C'était quand même... c'est quand même Internet qui a pu...
Ouais, oui.
Bon, c'était un petit peu les débuts, mais j'ai un petit peu cherché. J'ai vu sur Wikipédia que le tarogato avait un son rauque. C'est tout ce
oui.
qui était...
c'est bien. Un petit début.
Et après, je me suis dirigé vers les sites de petites annonces. Je ne veux pas les citer vraiment. Et j'ai réussi à trouver un tarogato. Alors, c'était absolument extraordinaire. Un tarogato que j'ai acheté à Chicago. Un Roumain... qui vendait cet instrument.
Et c'est que le début de l'histoire.
Oui, et il m'a expédié cet instrument. D'ailleurs, j'étais en vacances et il a failli repartir là-bas parce qu'il n'y avait pas de facture pro forma. Bref, et j'ai reçu cet instrument. Je l'ai joué 30 secondes.
Ouais.
Je l'ai mis dans ma cave.
D'accord.
C'était tellement fou. Je ne connaissais aucun doigté. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Il y avait un bec absolument injouable. Enfin, pour moi, au début, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Parce que je ne connaissais pas du tout autre chose que ce que j'avais entendu avant le concert. Donc voilà, ça a été le début de... Voilà comment j'ai découvert...
Et alors, pour travailler la technique, vous avez fait comment après ?
Alors, pour travailler la technique, bon, il s'est quand même passé plusieurs années avant que j'aille rechercher l'instrument dans la cave. Et si on a le temps tout à l'heure, on l'écoutera, mais on va l'écouter de toute façon au niveau de la musique hongroise. J'ai à nouveau entendu sur le net, sur YouTube, j'ai entendu un musicien extraordinaire, un musicien hongrois qui s'appelle Erdo Zoltán, qui a constitué un trio et un duo qui s'appelait Duo La Kodály, et qui jouait l'instrument dans une manière plus jazzy, plus moderne. Ça m'a complètement retourné. Donc je suis retourné dans ma cave. Et cette fois-ci, je m'y suis mis...
Sérieusement.
Oui, très sérieusement. Ouais. J'ai bossé, on sait ce que c'est que la technique et la pratique instrumentale. J'ai bossé tous les jours. Et puis au bout de quelques temps, j'ai fait quelques progrès, j'ai trouvé des doigtés. Puis Internet avait un peu progressé parce que c'était pratiquement... L'instrument, il est resté 6-7 ans dans ma cave. Donc il y avait un petit progrès, j'ai trouvé d'autres infos, puis peu à peu j'ai progressé dans la pratique.
D'accord. Et puis on verra ce qui s'est passé pour la suite. Alors donc là, on écoute deux petits extraits, très courts. Parlez-nous un petit peu de ces petits extraits.
Pour faire très rapide, le tarogato, c'est une évolution d'un instrument qui au départ... On sait que l'Empire austro-hongrois était longtemps dominé par les Turcs, et à la fin du 18e, quand les Turcs sont boutés de Hongrie, il laisse les instruments qu'on appelle le toroksip, ou des instruments qu'on trouve encore en Afrique du Nord, un instrument ange double. On pourrait dire que ça a d'ailleurs peut-être un air de famille avec la bombarde.
D'accord, oui.
Et un instrument très très puissant, ange double. Donc il laisse ça en Hongrie. Et les Hongrois, ils en retrouvent, ils commencent à en jouer, et ils l'utilisent beaucoup plus tard. Lorsque fin du 17e, début 19e, ils combattent les Autrichiens pour les mettre aussi dehors de la Hongrie. D'ailleurs, ils n'y parviennent pas. Et on les appelle les Kurucs. Et c'est le prince de Rakowski qui les mène au combat, etc. Ils utilisent cet instrument, le toroksip, sur des squads, et ils font très très peur la nuit au...
Ça fait un peu penser aux Coréens du Nord.
Oui, ils font très très peur aux Autrichiens qui sont assoupis, et ils les stressent, et bon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné finalement. Donc cet instrument est à nouveau, on va dire, caché, et voilà. Donc ça en reste là, et il faut attendre. Alors on va peut-être écouter le son du toroksip.
On va écouter le son.
Voilà.
Effectivement, ça peut faire peur.
Ouais. Instrument ange double, voilà. Et là, ce qu'on entend, c'est... On va l'entendre avec le tarogato réformé, puisqu'il s'appelle comme ça.
Oui.
Donc, fin du 19e, cette fois-ci. Alors, je ne sais pas exactement à deux ou trois près les dates, mais tout à la fin, on va dire, je dirais 1892-93, il y a deux facteurs hongrois, Stovasseur particulièrement, et Stovasseur particulièrement, et Schunda, donc ce deuxième facteur, ils ont une idée, comme ça a été fait un peu pour la clarinette, d'enlever cette ange double, et de la remplacer par une ange simple. Tout le monde connaît
donc
ce que c'est que le bec de
clarinette. Donc on passe du hautbois au principe de la clarinette.
Voilà, l'ange simple qui est plus facile à maîtriser quand même. Et ils gardent le principe conique... de l'instrument d'origine, toroksip. Et ensuite, ils vont mettre un clétage qui ressemble à un clétage de clarinette allemande. Alors, d'accord. Pour les connaisseurs, c'est super compliqué parce que la clarinette qu'on joue ici en France s'appelle la clarinette Böhm.
Oui.
C'est un peu extraordinaire parce que c'est un système français, mais ça s'appelle Böhm.
Oui.
C'est tout simplement parce que c'est l'adaptation à la clarinette du mécanisme de la flûte traversière. Böhm, il avait inventé ce qu'on appelle les anneaux mobiles. C'est-à-dire qu'avec un doigt, par exemple main droite, on peut faire fermer un tampon qui est de l'ordre de la main gauche grâce à un petit anneau mobile qui va le faire. Et les Hongrois, ils utilisent donc un petit peu les différents mécanismes pour mettre des clés sur cet instrument.
Moderniser, quoi.
Ils le modernisent, ils augmentent la tessiture, ils affirment la justesse, on peut faire des nuances, on peut faire des choses. Et peu à peu, c'est ce qu'on appelle le tarogato réformé. Et il est présenté tout au début du 20e, à l'exposition universelle, par exemple, des tarogato, voilà. Et après, il aura encore une autre histoire.
Donc on écoute le tarogato réformé.
On va écouter la même chose. Et ça s'appelle Nota, Kuruk Nota. C'est justement ce petit morceau qu'on va entendre. Alors, on va l'entendre d'ici quelques secondes et puis on va l'entendre jouer maintenant, plus tard. Mais d'accord. Déjà, sur le Tarogato réformé. Il aurait peut-être fallu passer en nouveau les deux l'un après l'autre.
Oh, mais on a le premier voilà. Dans l'oreille encore. Hein, voilà, ça ne s'oublie pas.
Oui, mais non, ça c'est tout à fait, ça ne s'oublie pas. Absolument pas.
Alors après l'histoire du tarot gâteau, avance.
Après, c'est tout aussi, je dirais, compliqué, parce que cet instrument, il est un peu l'instrument de la noblesse là-bas. Parce que quand finalement... Les Autrichiens sont hors de Hongrie. L'utilisation du Toroxip et les Kurucs, ce n'est pas eux qui ont libéré. Il y a eu plus tard d'autres choses. Les Hongrois ont été libérés des Autrichiens peu à peu. Mmh. Et donc cet instrument devient l'instrument un peu de la noblesse.
D'accord.
Et il illustre des fêtes populaires, tout ce qui peut se passer là-bas. Mais il est quand même un peu sous le manteau parce que... pas faire l'histoire de l'Hongrie, mais c'est très compliqué avec des différents dictateurs, différentes choses super compliquées qui font que cet instrument n'est pas quand même trop populaire d'une manière officielle, mais il est joué quand même
en sous-main, quoi.
En sous-main. Oui. Donc, il reste au niveau comment dirais-je, au niveau de sa fabrication, au niveau de sa maturité dans le clétage. Il n'a pas évolué depuis mon instrument qui est du début du 20e. Mm-hmm. Les instruments actuels, hormis le fait qu'on fait pour les gens qui veulent jouer plus facilement du tarot gâteau, des mécanismes qui ressemblent à celui de la clarinette, qui ont une double clé d'octave automatique, qui ont plein de choses qui font que c'est, on dirait, plus facile, mm-hmm. et surtout qui ont des anneaux qui sont couverts, comme le saxophone, parce que le problème du tarot gâteau, c'est qu'il faut boucher les trous. D'accord. Et c'est très très loin. Et il faut bien les boucher, sinon ça ne marche pas. Donc cet instrument, il continue en Hongrie peu à peu à se développer. Il fait partie peu à peu de l'intelligentsia hongroise. Mmh. Voilà.
On écoute la suite ?
Oui, alors la suite donc, ça s'appelle Kuruk Nota. C'est actuellement... le jeu du taragato en Hongrie est très assimilé à cette guerre de libération qu'ont fait les Kurucs pour que la Hongrie devienne ce qu'elle est, qui est devenue au départ la Grande Hongrie. On parlera tout à l'heure, elle a été coupée en morceaux plus tard. Mais le tarot gâteau, encore maintenant, est un peu le faire-valoir de cette Grande Hongrie. Il est pris d'ailleurs un peu par le régime, comme un instrument qui fait la... l'honneur de
fait partie de la grandeur du pays.
Et donc, un musicien, un ami que je connais très bien, qui s'appelle Erdo Zoltán, qui est un excellent tarogatiste, il va jouer, là, ici, Kuruk Nota, mais dans un arrangement avec un orchestre à cordes. Et avec... Alors, c'est un très vieux tarogato, c'est le même que le mien, il le détient de son grand-père. Mm-hmm. Et là, il va jouer avec un orchestre à cordes. Pour moi, c'est le son classique du tarogato. Voilà.
Eh bien, on écoute ce son classique.
Thank you.
C'était le tarogato classique, j'allais dire, comme on aime à l'entendre, hein, Philippe.
Oui, c'est vraiment un son qui est, on va dire, au niveau justesse, au niveau nuance, au niveau... bon, qui est la quintessence d'un travail bien précis au niveau du timbre. Voilà.
Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Alors Philippe Bécheran, on va continuer à avancer dans cette histoire du tarogato. Indispensable de connaître un petit peu toute l'histoire de ces pays-là pour comprendre ce qui se passe au niveau de cet instrument.
Oui, parce que hormis le fait que le tarogato soit d'origine hongroise, on va le retrouver particulièrement en Roumanie, avec une utilisation beaucoup plus festive, beaucoup plus, on va dire, joyeuse ou peut-être moins sérieuse.
Oui.
Et ça s'est passé à partir du moment où, après le traité de Trianon en 1920, nous sommes vainqueurs du premier conflit mondial, et on découpe, et d'ailleurs les Hongrois sont... C'est compliqué de parler de ça avec eux parce qu'on leur a découpé leur pays. Il y a encore actuellement des tas de choses qui ne sont pas réglées et il y a des fervents défenseurs de la reconstitution de la Grande Hongrie.
Oui, oui, oui.
Bref, il y a, alors, une partie, donc, la partie sud-ouest de la Hongrie échoit à la Roumanie.
D'accord.
Où la Roumanie en prend une partie. Voilà. Et là, le tarogato, qui est sur le territoire, il se trouve là. Et il est utilisé, à ce moment-là, dans le folklore hongrois. Il y a bien sûr tous les instruments traditionnels. On entendait d'ailleurs, avec le morceau précédent, le cymbalum.
Cymbalum, ouais.
Hein? En Roumanie, ils ont également des cymbalums, mais ils l'utilisent plus souvent avec l'accordéon. Et là, on a une nouvelle vie, on va dire, pour cet instrument, dans une esthétique assez différente.
Alors, avant de parler de la nouvelle vie du tarogato et d'esthétique, moi, je vous propose de faire la comparaison avec le saxophone soprane, parce que la première fois que j'ai entendu le tarogato, c'était il y a quelques semaines, puisqu'on ne se connaissait pas avant, et j'ai tout de suite pensé à un saxophone soprane. Alors, ça n'en est pas un, mais je vais quand même vous faire écouter la fin de la fantaisie pour saxophone et piano de Denis Bédard. Voilà, donc c'était le final de la fantaisie de Denis Bédard, donc pour saxophone et piano. Alors on était du côté hongrois pour le tarogato, maintenant on passe du côté roumain, où là il a une vie un petit peu différente, on va dire, Philippe Bécheran.
Oui, si pour la Hongrie on a une unicité d'esthétique et de son, pour la Roumanie c'est totalement différent. On a vraiment des sons et des timbres qui correspondent à toutes les régions dans lesquelles il est utilisé.
Oui.
Et il y a, on n'aura pas le temps de parler de toutes les différentes régions, mais il y en a deux principales qui sont la Transylvanie,
oui,
et le Banat. Alors la Transylvanie, c'est le centre de la Hongrie. J'étais à Cluj récemment, donc Cluj, Napoca, si vous regardez sur une carte, c'est un peu central, c'est la Transylvanie et tout ce qui a quelques, on va dire une centaine de kilomètres autour, un rayon de 100 kilomètres. Et puis vous avez plus à l'ouest, vous avez le Banat. Alors le Banat, c'est Timișoara, c'est tout ce qui est tout proche de la Hongrie. Vous avez là vraiment deux timbres différents.
Et ça tient à quoi?
Alors, ça tient... Alors, c'est un des profs que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, qui s'appelle Mario Scarnu, qui venait donc, et soliste aussi à l'orchestre de Timișoara, qui nous expliquait qu'il y a la plaine et la montagne. Mmh. Et il y a aussi les influences des bergers qui jouaient du caval, de la petite flûte, pendant des heures. Et les Roumains ont utilisé le tarogato pour transposer sur cet instrument ce qui était joué au caval.
D'accord.
Et dans les montagnes, tout est extrême, la température, l'altitude, le climat, etc. Les gens ressemblent à... Et dans les plaines, c'est plus...
Oui, c'est plus plat.
Ou même, si c'est pas vraiment très plat, c'est comme dans les Vosges, c'est un peu vallonné un peu, c'est voilà, plus souple. Donc, en Transylvanie, il y a un côté beaucoup plus mélodique, ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de technique aussi. Mm-hmm. Mais le Banat, alors c'est la rapidité, un détaché, on en verra tout à l'heure, complètement ahurissant. Et puis aussi, des fois, un timbre qui est à la limite parfois du supportable, parce que c'est très intense, mais c'est une technicité absolument parfaite. Et d'ailleurs, tous ces gens qui jouent d'une technicité parfaite, c'est des gens qui sont pratiquement tous des autodidactes, ouais, qui étaient. Mais maintenant, l'enseignement commence à être... Et maintenant, il n'y a pas de différence entre... Un tarogatiste peut jouer avec des ensembles folkloriques dans l'après-midi et jouer la cinquième de Beethoven le soir à l'orchestre.
Pas avec un tarogato.
Non, absolument pas. Bah non, s'il fait une seule note...
Et...
D'ailleurs, c'est impossible de jouer le tarogato avec quelque ensemble que ce soit, même sans parler de l'intensité sonore. Mais la présence de l'instrument,
oui, oui, oui.
C'est un instrument qui a tellement de présence que, même si on ne joue pas trop fort... Il passe au-dessus de tout. C'est lui qui... Et d'ailleurs, il appelle parfois le Stradivarius des instruments avant. Bon, je réponds jusque-là.
Oui, bon.
Un peu. Ouais. Donc, Banat, Transylvanie.
D'accord.
Il faut parler en premier de la Transylvanie.
Ouais. On l'écoute peut-être avant, non?
On peut écouter, oui. Oui, tout à fait. Écoutons.
Voilà, alors ça c'était le Tarogato version roumaine côté Timișoara.
Non,
c'était l'autre.
Là, c'est la Transylvanie.
Ah, c'est Transylvanie. Oui,
là,
oui.
Nous venons d'entendre là Dumitru Farkas. Dumitru Farkas, il est mort il n'y a pas très longtemps, en 2018. J'avais eu la chance de le rencontrer en 2015. Et pour la petite histoire, donc je suis allé encore en 2021 invité au congrès mondial du Tarogato en Hongrie. Il était présent et on a pu parler, échanger. Et donc, en 2021, quand je suis retourné encore en Hongrie, il y avait des tarogatistes roumains et la fille de Dumitru Farkas, Andrea Farkas, qui m'a invité avec d'autres collègues à venir travailler en Roumanie plusieurs... ça fait trois fois que je vais travailler là et je rentre il y a trois semaines d'une semaine de travail là-bas.
D'accord.
Et donc, Dumitru Farkas, c'est vraiment le maître de la mélodie et il a joué dans le monde entier, aux États-Unis. Il a fait connaître cet instrument dans ses programmes roumains. Et donc, c'est un son tout à fait particulier, c'est festif, mais c'est aussi, chaque fois, on l'écoutera encore tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la doina, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi-même, c'est une succession de phrases improvisées auxquelles répond soit l'accordéon qui accompagne et qui change les accords, et ce n'est pas du tout prévu. Et ensuite, on enchaîne sur un morceau, la Barbates des Marmaroues, et qui fait que c'est assez festif. Donc Dumitru Farkas, c'est, voilà, au niveau de mélodie, Transylvanie, c'est le top.
Et vous disiez que vous étiez allé travailler plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous font travailler alors?
Bon, on travaille le répertoire, on travaille la
technique. C'est du répertoire écrit ou du répertoire
alors,
oral?
Alors, il y a différentes manières de travailler. Il y a le répertoire écrit, on va nous envoyer des partitions.
Ouais.
Et puis il y a aussi beaucoup de travail d'une manière orale. Transmission orale, parce qu'il y a aussi, là, c'est pas trop complexe au niveau de la rythmique.
Oui, c'est ce que j'allais
mais
dire.
Mais on a d'autres choses qui sont, et parfois, oralement, c'est pas toujours évident du premier coup. Mais oui, donc on travaille, là, ça fait plusieurs années où j'ai fait une semaine complète, du lundi au samedi, on travaille 7 à 8 heures par jour avec plusieurs profs. Nous sommes en réalité 5 ou 6 étrangers à venir. C'est...
Vous êtes invité, c'est pas vous qui choisissez d'y aller.
Nous sommes davantage invités parce qu'on a manifesté notre désir. Alors je dis nous parce que, pour la petite histoire, j'étais invité pour la première fois au congrès mondial du Tarogato en Hongrie en 2015. Je suis retourné en 2021, parce que 2020, c'est tous les 5 ans. J'y vais d'ailleurs l'année prochaine. Comme 2020, c'était le Covid, ça n'a pas eu lieu. Et nous sommes plusieurs à venir de l'étranger. Alors j'ai mon ami Clark qui est à San Francisco, j'ai Yann qui est à Amsterdam, j'ai Anne qui est à Berlin, j'ai Claudio qui est à Londres, j'ai Samuel qui est en Suisse, j'ai Mathias aussi qui est en Suisse, etc. etc. Et on se rend compte des fois, j'étais à Berlin il n'y a pas longtemps, Yann est venu d'Amsterdam à la maison, donc et c'est un tarogatiste qu'on va entendre tout à l'heure qui est pour moi l'héritier au niveau sonore de Dumitru Farkas qui vraiment au niveau style et au niveau sonorité est vraiment voilà là, il s'est très inspiré de ça et donc c'est Christian Todpati qui a créé un groupe qui s'appelle Tarogato Lovers. Donc nous allons grâce à tout ça travailler avec les meilleurs musiciens là dernièrement là il y a trois semaines c'était vraiment top avec des profs extraordinaires d'un niveau incroyable et donc on va travailler le répertoire.
Le répertoire, vous faites l'improvisation aussi?
Alors, pas vraiment. On travaille surtout la technique, le phrasé par rapport à des choses écrites, évidemment. On a aussi des choses qui sont, comme je disais tout à l'heure, par transmission orale. Mais l'improvisation, c'est quelque chose qui vient, en tout cas chez moi, n'est pas encore arrivé, commence à venir. Mais... Ouais. Le problème, c'est qu'on a une habitude. Moi, j'ai une habitude. Je fais un petit peu de jazz où je peux un peu improviser dans le style de Bach. Mais ça, le problème, c'est que quand on veut improviser une doina roumaine, je n'ai pas encore assez de maturité. Pour l'instant, je repars dans des choses qui sont...
Tout à fait nouvelles.
Qui sont dans une esthétique que je connais, classique, et ça ne marche pas. Donc, on ne travaille pas trop ça. C'est en devenir. Voilà.
Ah oui, parce que ça vaut le coup quand même.
Oui, je pense que ça vaut le
coup. Improviser dans ce genre-là.
Ah oui, c'est tout à fait.
Alors, on a autre chose à écouter maintenant, peut-être?
Oui, alors on va écouter une petite suite, justement, qui a été enregistrée il y a trois semaines. au festival à Cluj-Napoca, qui est le festival justement d'Umitru Farkas, auquel j'ai d'ailleurs participé, j'ai joué aussi l'année dernière et cette année. Et on va entendre Christian Todpati avec un orchestre extraordinaire, dirigé par un musicien Bode Gross. C'est un orchestre professionnel de musique folklorique, traditionnelle. Et vous allez voir, donc, on a un son pour le Taro Gato qui n'est pas loin de celui d'Umitru Farkas, mais qui est actuel avec un orchestre. Voilà.
C'est parti. Alors là, on n'est plus dans les salons de l'aristocratie, on est sur les places du village. Hein.
Oui, on est un peu transporté dans un moment festif, évidemment. Oui, oui, tout à fait.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
Alors, on est toujours avec mon invité, Philippe Bécheran, pour parler du taro gato, cet instrument qui est un des rares à jouer en France et qui nous fera entendre tout à l'heure. En direct. Alors on continue cette histoire du taro gato, on est en Roumanie maintenant.
Oui, on est toujours en Roumanie. Avec... Alors je souhaitais d'illustrer avec deux tarogatistes, je pense, très 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 importants actuellement. L'un qui s'appelle Petri Capopa, qu'on va entendre, et puis ensuite Adrian Nermtou, qui résume au niveau de la technique et du son, ce qu'on fait pratiquement de mieux. Ce sont des gens qui font là-bas des concerts devant 5, 6, 10 000 personnes. C'est absolument incroyable, avec des orchestres symphoniques complets, avec des métriques comme on vient d'entendre aussi.
Oui, parce que ça, là, ça commence à swinguer sévère. Hein,
avec
là.
Des 10-16, mais il y a 4 doubles et puis 2 fois 3 qui se promènent un petit peu, mais on ne fait pas entendre les pulsations qui correspondraient à ou deux premières doubles, on n'en fait entendre que la première, donc ce qui nous donnerait tap, tip, 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 et puis voilà, avec des valeurs longues par-dessus de tout ça. Donc
c'est une mélodie qui se tient tout gentiment.
Quoi. Voilà, et c'est toujours un peu, ça me stupéfie toujours, c'est que je trouve que les œuvres musicales qui ont les mélodies les plus simples, quand on les joue et qu'on les travaille, mais qu'est-ce que c'est compliqué. C'est simple, mais c'est à la fois extraordinaire parce qu'il n'y a rien de trop et il y a tout. Oui. Et alors que finalement, c'est trois notes.
Oui,
Mmh. Et qui sont avec des variations, avec des répétitions, des couleurs. Donc là, on va entendre deux tarogatistes avec lesquels j'ai eu la chance de travailler tous les deux, plusieurs jours. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de morceaux comme ça en gestation avec ce répertoire. Donc un premier qui s'appelle Petri Capopa, qui lui joue merveilleusement au niveau technique. Là, il a un détaché. Alors ce n'est pas, comment dirais-je, le Banat, où c'est encore... Oui. Bon, c'est monstrueux, mais on va écouter Petri Capopa, qui est vraiment déjà au niveau technique quelque chose d'extraordinaire, et mélodique également.
Il n'était pas tout seul, il y avait du public, et puis un public conquis.
Oui, là, je pense que c'est très populaire, et il y a dans toutes les villes moyennes et toutes les grandes villes, beaucoup de festivals tout au cours de l'année, et avec des milliers de personnes. Alors, il y a parfois des festivals qui se trouvent à l'extérieur, on va dire que tous les gens ne sont pas forcément là, parce qu'il y a aussi des gens, on va dire, qui prennent le soleil, et c'est... Oui. Mais il y a aussi beaucoup de festivals... où sont dans des salles, et aussi beaucoup de concours.
Oui, il y a beaucoup de gens qui en jouent, en fait.
Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai rencontré beaucoup de tarogatistes qui ont un niveau de pratique, mais c'est absolument ahurissant le niveau de pratique et de connaissance de beaucoup de musiciens roumains qui pour autant ne sont pas très très connus, mais là, dans le cas de Petrica et d'Adrian Nermtou, c'est des gens, si on parle des réseaux sociaux, c'est des gens qui ont, 28K de vues sur 30 000 cas, voilà, et sont vraiment très très connus par toutes les générations. Quand on arrive à Cluj à 1h30 du matin en avion et qu'on prend le taxi pour aller à l'hôtel pour se placer pour le stage, chauffeur, que venez-vous faire? Ben, je viens, ah oui, Tarogato, ouais, super.
Tout le monde connaît, quoi.
Tout le monde, je ne sais pas vraiment, mais oui, beaucoup de monde. Ouais, en tout cas. Ouais.
Ça fait partie de la culture populaire.
Complètement, tout à fait. Oui.
Donc c'est un bon socle, après, pour peut-être certains s'orienter vers autre chose.
Oui, alors les musiciens roumains, ils sont... Bon, des fois, ça m'arrive aussi là-bas de jouer un petit peu des choses différentes de ce qu'ils font, d'avoir ma vision personnelle, parce que c'est ça que j'essaie de faire. Par exemple, avec mon guitariste, où j'ai le Guitarogato duo, j'ai arrangé des mélodies, je joue Après un rêve de forêt, je joue Libertango, je joue
d'autres. D'accord,
mais eux, ces musiciens-là, ils restent quand même, ils comprennent pas trop ce qui se passe quand on improvise dans le style de Charlie Parker. Ça, c'est compliqué. ils me disent si, oulala, c'est très très riche au niveau harmonique.
Ah oui.
Mais lorsque eux improvisent une doina, où il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la doina? Il y a la tonique, la dominante, Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça?
Oui.
Mais c'est extraordinaire. Pour aller du do au en passant par le sol, on peut passer par le fa, par le la,
échelles,
mais d'aller d'un point à un autre, ça semble si facile, mais c'est si complexe.
Des fois,
voilà.
Oui.
Voilà.
Alors, on va peut-être, juste pour se changer un petit peu l'oreille, revenir du côté du hautbois, et je vous propose d'écouter la fin d'une des métamorphoses de Benjamin Britten par Christian Hommel. C'était le hautboïste Christian Hommel qui nous jouait la fin des métamorphoses de Benjamin Britten, c'était Bacchus. Alors Philippe Bécheran, donc on resterait des heures à vous entendre parler du Tarogato et de tous ces instruments de ces pays. Mais comment vous faites pour développer cet instrument-là en France?
Comment je fais pour le développer? Bon, je vais dire que j'en joue.
Ouais.
Et puis,
vous venez faire des émissions de radio?
Ah, oui, ben merci justement cette invitation. Qu'est-ce que je peux faire?
Alors j'ai des concerts.
Oui. J'ai créé un duo avec un ami guitariste qui s'appelle Patrick Mir. Et depuis 10 ans maintenant, on a donc le guitaro gatto, c'était forcé.
Oui, bah oui, forcément, il fallait l'acheter au moins une fois. Oui.
Et donc là, Patrick, il m'a suivi dans très, très gentiment. Et d'ailleurs, quand je l'ai rencontré dans une école de musique, on était collègues, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'accompagner un peu sur ça? Je lui ai dit, ah, c'est pas dur, il y a deux accords, tout ça. Et je me souviens, lorsqu'on avait fait un interview avec FR3, il avait dit ça, que je lui avais dit que c'était facile. Et il a dit, c'était pas facile du tout. Et peu à peu, on nous a monté un programme et qui, justement, utilise le tarot gâteau. Donc, évidemment, il y a des morceaux hongrois, mais il y a aussi ma vision de l'instrument. Il y a des arrangements de Gabriel Fauré, il y a du Piazzolla, il y a d'autres choses. Et avec Patrick, donc, qui m'a vraiment suivi, qui a aussi arrangé la partie guitare, etc. Ça fait 10 ans, je ne sais pas combien ce qu'on a pu faire, peut-être on est peut-être 40-50 concerts.
D'accord, oui.
Donc on se produit, là on s'est produit l'année dernière à un petit festival près de Bruyères, à la Dame de Chant. Mmh. À Chant-Duc,
oui,
à Chapelle
Romane. Oui.
Mmh. Voilà, alors un petit concert avec une centaine de personnes, et là, les gens, ils ressortent avec le son, la guitare évidemment, mais ouais. Je ne me prive pas de.
Oui.
Parce que je suis un peu convaincu de ce que je fais, et j'essaie, voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais des concerts, je fais aussi, on l'a dit, une émission de radio, et puis j'ai d'autres projets encore. Alors peut-être un jour avec un orchestre symphonique, on en entendait tout à l'heure, je pense avoir des partitions. Et puis j'ai en prévision aussi la constitution d'un duo avec un musicien roumain, un accordéoniste que j'ai rencontré là-bas et qui est chirurgien dentiste dans le sud de la France et qui a accompagné Dimitro Farkas dans ses tournées. Il m'a dit, il faut qu'on joue ensemble. Donc je suis en train de préparer ce qu'il faut au niveau musical et quand je vais être prêt, je vais l'appeler, on va répéter.
Oui.
Et là, on va...
Vous viendrez nous faire de la musique tous les deux. Avec plaisir.
Le guitare au gâteau, ça va rester une entité très intéressante pour justement ouvrir dans différentes esthétiques. Mais là, je vais me centrer sur la musique roumaine.
D'accord.
Avec une personne qui, au niveau accompagnement, sera vraiment tip-top. Et voilà.
Et alors, pour le guitare au gâteau, vous avez sorti un CD.
Oui, tout à fait. Hein,
qui est à disposition des gens.
Oui, ça c'est...
Voilà. Oui, il suffit de contacter la radio et puis on fait
sans
suivre.
Problème. Hein, alors, ça s'appelle Tarot Gâteau Addiction.
Bah oui, je trouve que ça vous va bien.
Donc, j'ai un petit site qui n'est pas tracé à jour, mais qui s'appelle Tarot Gâteau Addiction. Donc, on est en réalité, on est 3 ou 4 en France à faire du tarot gâteau comme ça. Pas beaucoup plus. Hein, voilà.
Ben écoutez, je vais vous laisser vous préparer parce que vous allez nous en jouer du tarot gâteau.
Le tarot gâteau normal,
j'allais dire, et puis le tarot gâteau basse.
C'est le tarot gâteau basse.
Et en attendant, je vais vous faire quelques petites annonces parce que la musique continue à Nancy en ce début décembre. Alors, donc dimanche 1er décembre, à 17h, salle Poirel, ce sera le premier concert d'abonnement de l'orchestre Gradus and Musicam, dont on a parlé la semaine dernière avec François Leger et Monique Mage. Et puis ce même 1er décembre, j'aurai le plaisir de participer à un concert caritatif au profit de l'association Gamia. Gamia fait la promotion de la santé au Bénin. À noter que cette association est présidée par Alain Aubrège, que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'il anime depuis 10 ans l'émission Jazz aux éclats sur RCN. Alors ce concert aura lieu dans la superbe église de Saint-Georges d'Essey-les-Nancy, à 16h, donc dimanche, et j'y accompagnerai la violoniste Cyrielle Golin, qui est déjà venue dans Tempo Classique, et le baryton Pierre Belair. Alors il est à noter que l'entrée est libre, évidemment, et que l'église sera bien chauffée. Voilà, alors merci à Joris pour la technique, hein, évidemment. Sans lui, qu'est-ce qu'on ne ferait pas Et puis je laisse maintenant la parole à Philippe Bécheran qui joue un petit peu de tarot gâteau.
Ah!
Alors, vous nous disiez qu'il y avait du plastique dans ce tarot gâteau. Racontez-nous cette affaire.
Ah. Alors là, je viens de jouer un petit extrait de... Alors, le tarot gâteau, je fais une petite digression, mais pour expliciter ce que je viens de jouer. Certains musiciens de jazz se sont appropriés un petit peu aussi l'utilisation du tarot gâteau.
Oui.
Charles Lloyd et Joe Lovano. Donc ça, c'est une petite reprise de Joe Lovano, un saxophoniste ténor américain, qui donc utilise le tarot gâteau.
D'accord.
Comme ça. Je vous ai joué ça mm-hmm. pour changer un petit peu de... Alors, la question, c'était, oui, est-ce qu'il y a du plastique ?
Bah oui.
Non, il n'y a pas de plastique, mais dans le mien, il y avait du plastique. Voilà, j'ai trouvé ça. La semaine dernière, parce que mon instrument, il a vraiment...
C'est un instrument historique, en fait.
Oui, pratiquement. C'est-à-dire que j'ai acheté cet instrument, il est du tout début du 20e, parce que c'est un instrument Stovasseur, c'est la Rolls des tarot gâteaux, et c'est Léon Roy se le passe de génération en génération. Et j'ai réussi à acheter cet instrument, et lors d'un séjour en Hongrie, on m'a dit à qui il avait appartenu, et c'est absolument extraordinaire, je n'irai pas dans tous les détails, mais oui. Cet instrument, il appartenu à Chandor Burka, un musicien vraiment très connu en Hongrie, et... Il
a enregistré avec cet instrument-là.
Oui, il a enregistré avec cet instrument, et moi je ne savais pas que c'était cet instrument, et un spécialiste hongrois m'a dit « si, c'est l'instrument de Chandor Burka », et j'ai retrouvé des vinyles sur lesquels j'entends cet instrument.
Ouais.
Et alors, on parlait de plastique, cet instrument justement, il a été vendu par Chandor Burka, qui était ruiné, il était vendu à des gypsies, il était vraiment dans un état... Il s'est tout fracassé. Donc le luthier qui a conçu le tarot gâteau basque dont je vais jouer tout à l'heure, l'octave en dessous de celui-là, il fait aussi des instruments modernes et il a utilisé cet instrument pour les cotes et moi j'ai réussi à lui racheter. Et cet instrument, il a été réparé et la semaine dernière, eh bien, j'ai vu qu'entre les deux tenons... Le luthier, il avait mis un petit morceau de plastique, même très important. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Bref, et cet instrument qui provient de Chandor Burka, j'ai réussi à obtenir les disques de Chandor Burka, et j'entends cet instrument sur le disque. Et un de mes projets, c'est de faire la musique de Chandor Burka avec son instrument.
Alors, il y a du plastique dans celui-là, et dans le tarot gâteau basse, il y a un bout de boîte de conserve.
Oui, on peut dire que... Greg Ouspal, c'est le fabricant. Est-ce que c'est un fabricant ? Est-ce que c'est il a conçu le tarot gâteau basse, l'octave en dessous, et il y a des boîtes de conserve. Oui, parce que certaines pièces ont été faites avec des boîtes de conserve récupérées. Alors il y en a 25 à peu près de construits, et c'est un peu comme un sax ténor. Je vous joue une petite chose.
C'était mon invité du jour, Philippe Bécheran, qui nous jouait du tarot gâteau basse. Mais écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. J'espère que vous en aurez aussi pris à l'écouter. Si vous voulez des informations complémentaires, Philippe est à votre disposition par le biais de la radio, par exemple, en envoyant un petit message. Eh bien écoutez, il est l'heure de se quitter. Donc continuez à écouter RCN. Vous voyez qu'il s'y passe de jolies choses tout au long de la semaine. À mardi prochain.